Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la grâce de Dieu malgré nos erreurs, dans Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Nous faisons tous des erreurs dans la vie, et il nous arrive de faire de mauvais choix, de regretter des décisions, c'est-à-dire qu'on veut bien faire, mais on se rend compte qu'on n'y arrive pas et que souvent on fait mal. Et on a besoin de la grâce de Dieu pour nous accompagner, pour nous aider à nous relever, parce que on peut toujours apprendre de nos erreurs. On peut toujours revenir en arrière, prier le Seigneur pour nous montrer ce qui n'a pas fonctionné et repartir d'un bon pas avec le Seigneur en lui faisant confiance. Alors on va parler de la grâce de Dieu qui, sur le principe de la grâce, eh bien, nous devons d'abord reconnaître nos torts au Seigneur, demander pardon à Dieu, parce que Dieu pardonne nos erreurs dans la mesure où nous reconnaissons nos torts. Si on a fait des erreurs dans la vie, et ça arrive à tout le monde, eh bien, nous savons que la grâce de Dieu, elle demeure envers chacun. Certains, peut-être, ont écouté de mauvais conseils, et ils se sont retrouvés dans une situation sans issue. Certains ont pris des décisions sans consulter Dieu, et ils ont déménagé, ils ont fait des frais, et ils ont perdu beaucoup d'argent. Parce que c'était pas ça, c'était pas la volonté de Dieu. Certains ont cru faire une bonne affaire, ils ont mis toutes leurs économies, peut-être on leur a conseillé un placement, et financièrement ça a été une catastrophe. Et tout cela, on doit apprendre de nos échecs pour se relever avec l'aide de Dieu. Alors Dieu ne va pas vous rappeler constamment vos erreurs. Dieu n'est pas là pour vous condamner, pour vous faire vivre dans le regret, dans la tristesse, dans la contrainte. Mais Dieu est là pour faire grâce, pour vous donner une deuxième chance, pour vous relever et vous permettre d'aller de l'avant. Mais la première étape passe par la repentance. Et j'aimerais voir un exemple avec le prophète Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 1, et versets 1 à 3, pour vous montrer la grâce de Dieu dans sa vie qui va l'amener à prendre la bonne direction. Jonas, chapitre 1, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Le premier point que nous voyons dans la vie de Jonas, c'est d'abord qu'il entend distinctement la voix de Dieu, la parole de Dieu sur sa vie. Dieu lui donne un message à transmettre de sa part, il lui donne la ville où il doit aller, il lui donne la mission, donc on peut dire que voilà, il y a une feuille de route, c'est tracé, c'est clair. Et il n'a plus qu'une chose à faire quand on reçoit la parole de Dieu et ses directives, la seule chose qu'on doit faire, c'est maintenant obéir. Or, ben, il fait le contraire de ce que Dieu demande. Alors, parfois, Dieu nous parle, il nous donne une direction, et c'est à nous d'obéir. Et tant que nous n'aurons pas obéi, eh bien, Dieu attendra que nous obéissions. Et ça va être le cas de Jonas. Donc, Jonas va accumuler un certain nombre d'erreurs, et on n'est pas là pour le juger, le critiquer, mais pour tirer des leçons de la vie de Jonas, parce que nous sommes tous capables de faire des mêmes erreurs. Alors, il se lève d'abord pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Première erreur. Essayez de fuir loin de la face de l'Éternel. Mais où est-ce que vous allez aller pour fuir loin de la face de l'Éternel? Ça, c'est un vrai problème. En fait, vous fuyez un problème, mais vous vous mettez dans un autre problème. Parce que vous ne pouvez pas fuir loin de la face de l'Éternel. Donc, vous voyez, première erreur. Il se lève, il entend la parole de Dieu, il sait qu'il doit obéir, mais il décide de fuir loin de la face de l'Éternel. Regardez le psaume 139, verset 7, et c'est déjà dit dans la parole. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Ça, c'est Jonas. Il est parti à l'extrémité parce que Tarsis, c'est vraiment à l'extrémité de la mer pour lui. Et là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Alors, qu'allez-vous trouver loin de la face de l'Éternel? Peut-être vous allez essayer de trouver la paix, mais vous ne pouvez pas trouver la paix loin de la face de Dieu. En fait, ce qui va se passer, c'est que si vous allez loin de la face de l'Éternel, vous allez trouver des ennuis et des problèmes, peut-être plus compliqués que ceux que vous avez abandonnés. Mais Dieu nous laisse libres et responsables, c'est-à-dire il n'a pas forcé Jonas à lui obéir. Il l'a laissé libre. Et nous sommes libres ce matin d'obéir ou de désobéir, mais nous sommes responsables de nos choix. Donc je dirais que ce matin, vous avez aussi le choix de prendre la décision d'obéir ou de désobéir à Dieu. Ce sera votre responsabilité. Donc première erreur, il tente de fuir loin de la face de l'Éternel. Deuxième erreur, Jonas va dépenser beaucoup d'argent dans le prix d'un billet pour aller à Tarsis. Il va donc dépenser de l'argent inutilement. Et la désobéissance à Dieu aura toujours un coût. Ça peut être un coût financier, ça peut être un coût sur votre morale, sur votre santé, ça va vous coûter quelque chose. Et là, il a payé le prix du billet. Certains subissent même pendant des années des dettes à rembourser parce qu'ils ont acheté des biens, ils ont fait des erreurs financières, et ils se retrouvent contraints de devoir rembourser, de devoir payer des choses finalement qui n'étaient pas nécessaires ou pas utiles. On a un exemple célèbre qui est arrivé en 2008 lors de cette grande crise financière avec un homme qui s'appelait Jérôme Kerviel, qui était un trader de la Société Générale et qui, par ses opérations financières, a fait perdre à sa propre banque 4,9 milliards d'euros. C'est énorme. Et il a été condamné à dédommager la banque de 1 million d'euros de remboursement. Donc vous imaginez les sommes. C'est énorme. Pour rembourser des sommes pareilles, vous en avez pour plus d'une vie. Et c'est terrible quand on fait des erreurs financières. Et Jonas a donc dépensé de l'argent inutilement. Ce sont des erreurs qui vont vous coûter cher parce que si vous lisez la suite du récit, qu'est-ce qui va se passer? Jonas n'arrivera jamais à Tarsis. Il a payé le prix pour aller à Tarsis, mais il n'arrivera jamais à Tarsis. Il va être jeté par-dessus bord avant. Mais pas que. L'erreur de Jonas, sa désobéissance, maintenant les frais qu'il a engagés, eh bien, ça va coûter aussi toute la cargaison du navire. Parce que quand il va y avoir la tempête qui va survenir, à un moment donné, ils vont tout jeter par-dessus bord. Et ça représente des sommes faramineuses. Donc des sommes perdues par la désobéissance, par Jonas, qui a choisi de ne pas obéir à Dieu. Il faut que vous compreniez ceci, c'est que votre désobéissance aura déjà un impact sur vous-même, et ça peut être un impact financier, mais ça aura aussi un impact sur d'autres personnes. Ici, c'était tout le navire qui a subi la désobéissance de Jonas en perdant cette cargaison qui était très importante financièrement. Donc, deuxième erreur, Jonas fait des mauvais choix financiers. Troisième erreur, Jonas choisit une destination opposée à la volonté de Dieu. Il choisit donc d'aller à Tarsis, qui est à l'opposé de Ninive, où Dieu lui a demandé d'aller, et c'est très 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 loin. Pourquoi une telle décision ? Bien, dans le fond, Jonas est un croyant, mais un croyant incrédule, un petit peu comme Thomas. Vous connaissez les croyants incrédules? Ils disent « je crois, mais montre-moi d'abord des preuves, je veux tel ou tel signe, sinon je ne croirai pas ». Voilà, ça c'est Thomas. Jonas était incrédule parce qu'il ne croyait pas que Dieu allait changer le cœur des gens de Ninive. Tant Dieu avait dit qu'il devait aller à Ninive pour prêcher la parole et que ça serait une porte de salut, qu'il y aurait des conversions. Et puis alors il a peur qu'on ne le croie pas, qu'on ne l'écoute pas. Vous savez que toutes les peurs que nous nous faisons, bah, ça nous bloque. On se forge des peurs, on a peur de se lancer, on a peur de faire ce que Dieu dit, alors ça nous bloque. Finalement, ce sont des peurs qui nous freinent. C'est le cas de Jonas. Alors il trouve des excuses. D'abord, c'est loin, c'est compliqué pour y aller. Ce sont des ennemis du peuple de Dieu, ils sont méchants. Bon, il a toujours des excuses à faire monter vers Dieu. Et remarquez ceci, c'est que vous aurez toujours des excuses pour ne pas faire la volonté de Dieu. Et quelque part, on peut tous trouver des excuses, même de nouvelles excuses. Lorsque moi-même, j'ai été appelé un jour à devenir pasteur, puisque je me destinais à travailler dans le domaine de la publicité, et je pensais servir Dieu à travers la publicité. Et je pensais que la volonté de Dieu, pour moi, c'était ce chemin-là. Donc, lorsque, le soir, dans une colonie de vacances, le pasteur avait donné un verset à chacun, et il avait préparé un verset pour moi dans la prière, et c'était un verset qui m'orientait à servir le Seigneur. Mais quand j'ai reçu ce verset, je n'ai pas vu cette direction. Les gens autour de moi voyaient la direction, mais j'avais toujours des excuses, et je disais, mais c'est pas pour moi. J'ai déjà reçu de Dieu une direction. Pour moi, c'est la publicité. Je servirai Dieu dans ce domaine-là. Et j'avais à cœur aussi les animations au niveau des enfants, etc., l'enseignement des enfants. Donc, j'avais toujours des excuses et je disais non, c'est pas pour moi. Et puis, 3 jours après, il y a une monitrice du camp qui vient vers moi. Elle s'occupait des tout petits. Moi, j'étais avec les ados. Donc, on n'avait jamais d'activité ensemble. On se côtoyait pas. Et elle a reçu dans son temps de prière un verset pour moi, et c'était encore un verset pour un appel au ministère pastoral à se lever pour servir Dieu. Et là, ma première pensée, c'est je me suis dit, mais elle est bizarre, cette monitrice. Elle est un peu mystique. Dieu lui donne des versets comme ça dans son temps de prière. Et pour moi, en plus, vous voyez, je l'ai jugé. Et pourtant, ça venait bien de Dieu, après coup, j'ai compris. Mais sur le coup, j'avais des excuses. Mais je disais, ça ne peut pas être la volonté de Dieu, puisque j'ai déjà la volonté de Dieu qui m'a dit, ce serait la publicité et le dessin. Et donc, j'ai rejeté encore ce verset et j'ai mis de côté. Et puis, 3 jours plus tard, encore, alors que nous étions en colonie, on avait un jour de congé, on a pu sortir de la colonie et aller dans un culte, c'était un dimanche justement, et on va au culte, et là, personne ne me connaît, une prophétie, et là encore, prophétie précise, Dieu te parle, Dieu t'appelle, il faut que tu répondes à l'appel de Dieu. Et là, je sens quand même que l'étau se resserre de plus en plus dans cette direction. Et en même temps où cette prophétie vient, les 2 autres versets qui m'ont été donnés indépendamment, parce que personne ne se connaît dans cette histoire, chacun a donné des choses de manière différente, mais tout revient en même temps. Et là, j'ai compris que Dieu était en train d'insister pour me dire, voilà la direction. C'est un appel pour servir Dieu. Et là, j'ai commencé à accepter, j'ai commencé à obéir. Et là, j'ai pas cherché des excuses. J'ai compris que la première pensée que j'avais eue n'était pas celle, finalement, que Dieu voulait pour ma vie. Et donc, j'ai choisi d'obéir à l'appel qui m'était adressé. Mais ça, c'est une décision à prendre. J'aurais pu encore trouver des excuses. J'aurais pu encore rejeter cette pensée et continuer mon chemin en disant, oui, mais moi, je suis convaincu parce que Dieu m'a déjà dit, tu serviras dans le domaine de la publicité. Et j'aurais pu continuer cette voie-là. Donc, à un moment donné, il faut vraiment prier, chercher la face de Dieu, et quand vous avez la direction, d'obéir à l'appel. Et puis, si l'appel se réoriente, eh bien, suivre le mouvement de Dieu, et non pas imposer à Dieu notre mouvement. Ça, c'était le premier point. On voit vraiment chez Jonas qu'il entend bien la parole de Dieu, qu'il a les directives, mais qu'il choisit de désobéir. Le deuxième point, c'est que l'Éternel va maintenant poursuivre Jonas pour le ramener dans sa volonté. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu pour ramener Jonas? Il va susciter une tempête. Et là, frères et sœurs, nous devons comprendre que toutes les adversités qui nous arrivent ne viennent pas forcément du diable. Parce que là, c'est Dieu qui a suscité cette opposition puissante. Donc, certains obstacles viennent même de Dieu pour nous arrêter dans la mauvaise direction. Pour dire, non, tu t'entêtes à aller dans cette direction, mais c'est pas la volonté de Dieu. Et il y a une tempête qui survient. Et peut-être vous dites, mais c'est le diable qui a envoyé cette tempête. Non. C'est Dieu qui l'envoie pour vous ramener dans la bonne direction. Donc la tempête, c'est un avertissement de Dieu, parce que Dieu aime Jonas, parce que Dieu ne veut pas qu'il s'égare, qu'il aille à Tarsis, qu'il se perde. Il veut le ramener dans la bonne voie, donc il ne veut pas le laisser s'égarer. Alors Jonas, pendant ce temps, lui, il descend au fond du bateau, il s'endort profondément. Mais vous voyez, quand on quitte la volonté de Dieu, on va s'endormir. Déjà, spirituellement, vous êtes endormi, vous n'écoutez plus la volonté de Dieu. Mais en fait, son âme est endormie, son corps est endormi, il est en train d'entrer dans la déchéance. Et puis, Dieu fait tomber le sort sur Jonas, parce que les marins comprennent qu'il y a la tempête et qu'ils vont tous mourir. Donc, ils ont jeté la cargaison par-dessus bord, comme on a dit. Ils ont prié leur Dieu pour demander de l'aide. Et ils demandent à Dieu de tirer le sort pour savoir, mais de qui viennent ces problèmes? Et Dieu va orienter le sort sur Jonas. Donc, Jonas est désigné comme le responsable de tous ces cataclysmes. Alors, si vous désobéissez à Dieu, vous ne serez jamais vraiment tranquille. À un moment donné, le sort va tomber sur vous. Et Jonas, lui qui s'est endormi, va être réveillé dans sa conscience, parce que Dieu l'aime et veut le meilleur pour lui. Voyez le psaume 73, verset 28. Je le lis dans la version Tob. « Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. » J'ai pris refuge auprès du Seigneur Dieu pour annoncer toutes tes actions. Voilà notre bonheur, frères et sœurs. Il n'est pas dans la fuite, il n'est pas dans la désobéissance. Il est dans la présence de Dieu. Alors Jonas, voyez la pire des choses pour un croyant, finalement. Jonas est obligé de raconter sa désobéissance à Dieu à des non-croyants. Il est obligé d'expliquer sa situation à des non-croyants. Jonas, chapitre 1, verset 10. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Voyez le problème, Jonas n'a pas voulu se repentir devant Dieu. Il n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Il s'est entêté, aujourd'hui il est dans une impasse. Eh bien, à cause de sa désobéissance, il doit s'expliquer devant des non-croyants en disant « Dieu m'avait dit de faire ça, mais j'ai désobéi à Dieu. » Il vaut mieux s'humilier devant Dieu, chercher sa face, faire sa volonté, plutôt que d'être contraint de nous justifier ou d'expliquer notre situation devant des non-croyants qui ne peuvent pas comprendre la situation. Donc, il a résisté à Dieu et maintenant, il est contraint de s'humilier devant ses marins. Le troisième point, c'est maintenant les marins qui vont jeter Jonas par-dessus bord, dans Jonas chapitre 1, verset 14, parce que les marins ne veulent pas tous mourir pour la faute d'un seul homme. Donc Jonas 1, 14, « Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Et donc, sur le conseil de Jonas, ils vont le jeter par-dessus bord. Et quand vous désobéissez à Dieu, votre situation se dégrade. Déjà, vous traversez des tempêtes, vous avez des obstacles qui se dressent, c'est pas le diable, c'est Dieu qui vous arrête, qui vous dit non, c'est pas la bonne direction. Mais en plus, vous vous retrouvez dans des situations encore plus basses. C'est-à-dire qu'il était encore sur le bateau, qui était quand même un avantage quand vous êtes dans la mer, mais il va se retrouver directement maintenant dans l'eau. Sa situation se dégrade, il tombe de plus en plus bas. Jonas est seul, dans la tempête, au milieu de la mer, et maintenant il coule. Qui pourrait encore faire quelque chose pour lui? Les marins, c'est fini, ils ne veulent plus entendre parler de Jonas. Sa famille ne sait même pas où il est parti, donc il est tout seul, isolé. Qui va entendre sa prière? Il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Et il y a des moments où il n'y a plus que Dieu qui peut intervenir dans votre situation. Il y a des moments où tout est contre nous. Dieu a suscité une tempête contre vous. Vos amis vous ont rejeté, vous êtes seul. Tout ce que Dieu attend, c'est que vous reveniez à lui avec un cœur repentant. Ça, c'est votre part. Vers qui vous tournez? Comment faire pour vous en sortir? Eh bien, Dieu n'attend qu'une chose, c'est que son prophète revienne à lui dans la repentance et dans la prière. Mais pour l'instant, il résiste encore. Mais voyez, Dieu a toujours une solution, c'est le quatrième point. C'est maintenant la solution de Dieu. Comment Dieu va-t-il sauver son prophète? Jonas chapitre 2, verset 1. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Dieu a envoyé un grand poisson, et c'est comme ça que Jonas a échappé à la mort. Dieu n'avait pas oublié Jonas, mais il se retrouve quand même dans une situation précaire, parce que dans le ventre du poisson, vous voyez, on est à l'étroit, c'est une situation de tension, c'est quand même très difficile. Mais remarquez ceci, dans le livre de Jonas, c'est à ce moment-là qu'il y a le tournant. Et dans le ventre du poisson, Jonas va faire monter vers Dieu une prière de repentance. Et il y a un moment donné où il doit y avoir un tournant dans notre vie, un tournant pour la prière de la repentance. C'est là que les choses vont changer. Jonas reconnaît qu'il a pris le mauvais chemin. Je dirais, enfin, il aurait pu le reconnaître plus tôt. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on tarde tant à se repentir? Eh bien, on s'accumule des difficultés. Là, il a enfin compris la leçon et il se repent. Il était temps. Là, il veut retrouver la communion avec Dieu qu'il a perdue. Dans le ventre du poisson, il veut restaurer sa relation avec Dieu. Il change d'attitude, il se repent. Mes frères et sœurs, il faut parfois des années pour faire ce demi-tour, alors que nous pouvons le faire aujourd'hui même et ne pas tarder. Il faut parfois aller jusqu'à l'épuisement, rencontrer des tempêtes, être jeté par-dessus bord, être avalé par un grand poisson pour commencer à dire « Ah, il y a quelque chose quand même, il faut que je me repente ». Mais si vous le décidez dans votre cœur, vous pouvez très bien aujourd'hui vous arrêter, vous tourner vers Dieu et demander son secours et son pardon. Personne n'aime être dans le ventre du poisson. Il y a l'obscurité, il y a l'angoisse. On ne peut rien faire, on est sous pression, c'est inconfortable. Mais pour Jonas, ça a été l'élément déclencheur. Il y a un élément qui vous fera revenir à Dieu. C'est le temps d'un nouveau départ. Qu'est-ce qui va se passer ici dans le ventre du poisson? Jonas va être vidé de son orgueil. Il va se tourner sincèrement vers Dieu. Il va être transformé intérieurement. Et dans la suite du récit, Dieu va commander au poisson de rejeter Jonas sur le rivage. À son point de départ. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il dirige le temps et les circonstances. Donc le poisson a rejeté Jonas au point même où il était parti. Vous voyez que les dépenses qu'il a faites, le billet qu'il a acheté, la cargaison qui a été perdue, tout cela était inutile. En réalité, il se retrouve au point de départ. Il n'aurait jamais dû faire ce voyage. Il n'aurait jamais dû désobéir à Dieu et il aurait évité bien des problèmes à lui-même et à tout le personnel du navire. Jonas a perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, par son entêtement. Et là, il y a quand même une leçon à tirer, frères et sœurs. C'est qu'il faut distinguer, quand on est chrétien, la prière de la persévérance de l'entêtement dans une mauvaise direction. Parce que la persévérance, c'est très bien. Et nous devons persévérer dans la foi et dans la prière. Mais pas persévérer dans la désobéissance. Parce que celui qui persévère alors que ce n'est pas la volonté de Dieu, il s'entête. Et là, on devient comme Jonas. Jonas s'est entêté. Il a été buté. Il n'était pas persévérant dans le sens de la prière, mais il était entêté. Et cela l'a conduit à traverser des tempêtes, à être jeté par-dessus bord et à être avalé par le grand poisson. Donc, la persévérance, oui, c'est très bon pour nous. On en a parlé la semaine dernière, c'est indispensable dans la vie du chrétien. Mais l'entêtement, non. L'entêtement, c'est prendre une voie qui n'est pas celle de Dieu et avancer quand même, même si on a des indications que c'est pas ça, il faut faire demi-tour, mais on s'entête. Et là, on n'est plus dans le plan de Dieu. Un cinquième point maintenant, c'est la deuxième chance qui est accordée à Jonas au chapitre 3, toujours dans Jonas au chapitre 3 et au verset 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas pour la seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et s'en alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. En réalité, Dieu a fait revenir Jonas à son point de départ, et la première parole qu'il lui adresse, c'est exactement la même parole qu'il lui avait adressée avant sa désobéissance. Donc ça veut dire, on revient au plan initial. Ce que je t'avais dit, c'est ça que tu dois faire. Et c'est la même parole que la première fois. Cette fois-ci, Jonas va obéir. Il a compris la leçon, il ne va pas revenir en arrière, il ne va pas chercher des excuses. Et Dieu lui a laissé une deuxième chance pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Alors Dieu nous laisse toujours une deuxième chance, une troisième chance, si nous nous repentons, si nous revenons à lui d'un cœur sincère, si nous sommes fidèles. Pourquoi ? Parce qu'il nous aime. Son plan n'a pas changé pour Jonas, il a toujours ses projets pour lui, il a prêché la parole de Dieu à Ninive, et maintenant il va obéir. Et quand Jonas a obéi à Dieu et qu'effectivement il s'est rendu à Ninive, c'est-à-dire qu'il a vaincu ses peurs, qu'il a mis de côté ses excuses et qu'il a dit « je vais faire ce que Dieu me demande tout simplement », eh bien Dieu a agi dans le cœur des habitants de cette ville. La Bible dit qu'ils se sont tous tournés vers Dieu dans la repentance et il y a eu un réveil de toute une ville. Mais c'est au moment où Jonas s'est repenti et a obéi que Dieu a commencé à agir puissamment dans sa vie. Dieu agit puissamment, frères et sœurs, quand il trouve la foi et l'obéissance à sa parole. Si nous sommes sérieux, si nous croyons ses promesses, si nous obéissons aux Écritures, alors la main de Dieu sera avec nous. Mais Jonas a fait un grand détour. Ça n'a pas arrêté le plan de Dieu pour sa vie. Et frères et sœurs, on peut faire un grand détour. Mais Dieu n'a pas oublié son plan pour nous. Notre part, c'est de reconnaître nos erreurs et d'avoir la bonne attitude. Vous voyez, Pierre était quand même un apôtre. Il servait le Seigneur. Et il avait dit à Jésus, « Moi, jamais je ne te renierai », mais à trois reprises, il a renié le Seigneur. Donc on peut dire qu'il a fait une erreur grave. Mais il y a eu une deuxième chance pour lui. C'est-à-dire la grâce de Dieu était là, il a été orgueilleux, il a été présomptueux, il s'écrit plus fort que les autres. Mais Jésus est revenu vers lui après sa résurrection et lui a dit, « Pierre, m'aimes-tu ? » Et à trois reprises, il a réhabilité Pierre. À trois reprises, Pierre a dit oui. Et à trois reprises, Jésus a dit « Paix mes agneaux, paix mes brebis ». C'était une réhabilitation. Il y a eu la grâce de Dieu. Il y a eu une deuxième chance pour Pierre. Et Pierre a été réhabilité. Mais l'accusateur vous condamnera toujours. C'est pour ça que je parle des pensées, souvent des pensées, parce que Dieu vous accuse dans les pensées. Le diable vous accuse dans les pensées. Il vous dit « Tu as fait des mauvais choix, tu es un mauvais chrétien, tu es un mauvais mari, une mauvaise épouse, tu es un mauvais père ou une mauvaise mère ». C'est pourquoi tu es seul, tu fais du mauvais travail, tu vas souffrir, c'est fini pour toi. Tout ça, c'est dans les pensées. Nous devons combattre ces choses-là. Parce que si vous nourrissez ces pensées qui vous accusent, ce sont les pensées de l'accusateur, alors vous leur donnez de la force sur votre vie. Et ces pensées-là vont diriger votre vie. Alors vous devez comprendre que c'est juste des fausses pensées. C'est des pensées du diable. C'est pas la réalité. Mettez plutôt dans votre esprit les pensées de Dieu. Dieu m'aime. J'ai de la valeur pour Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu a un avenir pour moi. Il y a une espérance. Il y aura une solution. Dieu va ouvrir une porte. Mettez dans votre esprit les bonnes paroles de Dieu et sortez de votre esprit toutes les paroles de l'accusateur. Face à l'accusateur, nous avons un puissant avocat. 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, voyez, il y a toujours une possibilité de repentance et toujours une grâce. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ n'est pas là pour vous condamner, il n'est pas là pour vous détruire. Il est votre avocat. Si vous vous repentez, si vous reconnaissez vos péchés, il enlèvera la culpabilité, il vous donnera une deuxième chance. On va prier quelques instants. On a parlé de la grâce de Dieu. Moi, je dirais que la grâce de Dieu, elle est là pour chacun ce matin. Malgré nos erreurs. Personne ne peut dire qu'il est parfait. Tout le monde a fait des erreurs. Et vous êtes peut-être là aujourd'hui, dans ce lieu, à terre, parce que vous n'avez plus de solution, parce que pour vous, il n'y a plus d'avenir, parce que vous êtes dans l'obscurité, parce que vous êtes dans une situation inconfortable. Peut-être même que vous êtes dans cette tempête dont on a parlé, parce que Dieu a suscité une tempête contre vous pour vous arrêter. Mais vous ne voyez pas l'issue. Vous avez fait des mauvais choix, vous avez désobéi à Dieu, vous vous êtes égaré. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur ce matin, c'est pas terminé pour vous. Vous ne devez pas vivre toute votre vie dans l'échec ou dans la culpabilité. Ça serait bien le plan du diable pour votre vie. Mais ce n'est pas terminé parce que Dieu veut vous donner une deuxième chance, comme il l'a fait pour Jonas. Il a envoyé ce grand poisson, il l'a ramené sur la rive et Jonas a repris le bon chemin. Vous pouvez aujourd'hui vous repentir. N'attendez pas demain, n'attendez pas que la tempête s'empire. N'attendez pas que vous soyez au plus bas. Faites comme le fils prodigue qui, à un moment donné, est rentré en lui-même. Il avait quitté la maison du père, il vivait au milieu des pourceaux après avoir tout dépensé dans la débauche, alors qu'il avait eu l'argent du père. Il a tout dépensé et Jésus dit qu'entré en lui-même, il s'est souvenu, il a dit « Je retournerai vers mon père et je dirai « J'ai péché contre le ciel et contre toi ». C'est cette démarche de repentance qu'il a réhabilité. Lorsqu'il a fait cette repentance, le père ne l'a pas jugé, le père ne l'a pas condamné, il lui a donné une deuxième chance. Il dit « Viens dans ma maison, je te réhabilite. Tu es mon enfant. On va prier. Merci encore pour ta parole, parce que tu es là pour tendre la main, tu es là pour faire grâce, et je te prie pour celui ou celle qui est venu dans ce lieu ce matin, qui est peut-être dans l'échec, qui fuit peut-être loin de la face de l'Éternel, qui est confronté à des tempêtes, qui est confronté à toutes sortes de situations impossibles. Eh bien, Seigneur, je te prie de parler au cœur et de permettre des bonnes décisions. Oui, dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.